Hébreux 11. Alors ce matin, quand Albert a parlé d'Hébreux, j'ai commencé à prendre peur parce qu'on ne s'était pas concerté. Il a dit 10. Moi, c'est 11. Donc Hébreux 11. Donc ouvrez vos Bibles dans Hébreux 11. On va regarder le verset 29. Avant ça, on va prier. Père Céleste, nous allons regarder ta parole. Seigneur, nous regardons surtout à Christ, sachant, Seigneur, que c'est lui qui nous lave de nos péchés, et que c'est grâce à lui, Seigneur, qu'il n'y a rien entre toi et nous. Seigneur, puisse ton Esprit Saint nous éclairer, nous guider, et que nous comprenions ta parole, Seigneur, et ce que tu as pour nous ce soir, cet après-midi. Je te prie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Donc, Hébreux, chapitre 11, on va regarder le verset 29. Je lis pour vous ce verset. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Donc ce verset se trouve dans le chapitre 11 de Hébreux, qu'on a appelé la galerie des héros de la foi, donc une galerie de portraits. Et ces portraits sont là les uns après les autres comme des exemples de foi, des exemples pour nous. On a Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse et d'autres encore. Et le verset que nous lisons fait tout de suite après la partie sur Moïse, mais il semble ne pas se limiter à Moïse puisqu'il dit que c'est par la foi qu'il traversèrent au pluriel, donc la mer Rouge, et non pas qu'il traversa la mer Rouge au singulier. Et d'ailleurs, la Bible du Semeur et la Bible Parole de Vie disent carrément, elles parlent carrément des Israélites qui traversèrent la mer Rouge. Le mot israélite n'est pas dans le texte original, mais les traducteurs de ces Bibles ont fait l'hypothèse qu'en fait, c'était ce que voulait dire l'auteur. Mais on est tout de même un peu surpris que la foi des Israélites figure ainsi dans cette galerie des héros de la foi, n'est-ce pas ? Parce qu'il semble nous souvenir qu'ils ne furent pas toujours un modèle de foi. Et donc, on va regarder le texte en Exode 14. Donc, si vous voulez bien tourner dans vos Bibles en Exode 14, qui relate ce passage de la mer Rouge par le peuple d'Israël. On va regarder en particulier la fin du chapitre. Donc, on est en Exode 14. Donc, Israël vient de passer la mer Rouge à sec. Et les eaux ont recouvert les Égyptiens. Et voici comment se conclut donc le chapitre, au verset 30. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Et le psaume 106, je n'y tournais pas, je lis pour vous, qui relate le même passage, dit également, versets 11 et 12, à peu près la même chose, « Les eaux couvrirent leurs adversaires, il n'en resta pas un seul, et ils crurent à ses paroles, et ils chantèrent ses louanges. » Donc les Israélites ont vu la puissance de Dieu dans ce passage de la mer Rouge, et ils ont cru. Mais est-ce avec cette foi qu'ils ont traversé la mer Rouge ? On va regarder donc quel était leur état d'esprit avant qu'ils ne traversent la mer Rouge. Et toujours dans Exode 14, nous allons regarder à partir du verset 9. Je vais lire pour vous, à partir du verset 9. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent, campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tsephon. Pharaon s'approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert ? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte ? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte ? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Ils sont donc dans une panique complète. Et ils commencent à réciter leur complainte favorite, qui va devenir familière dans toutes les pages des livres de l'Exode et des Nombres. « Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte ? On était bien mieux là-bas. » Et le psaume 106 confirme également ce que dit Exode, puisqu'au verset 7, il dit « Nos pères en Égypte ne furent pas attentifs à tes miracles, ils ne se rappelèrent pas la multitude de tes grâces, ils furent rebelles près de la mer rouge. » Près de la mer rouge. Donc le peuple d'Israël a été témoin de tous les fléaux inouïs qui se sont abattus sur l'Égypte par la main de Dieu jusqu'à la mort des premiers-nés. Ils ont été témoins du fait que eux, les Israélites, ont été préservés, entièrement préservés de tout ça. Mais le psaume nous dit qu'ils ne se rappellent aucune de ces grâces de Dieu et qu'ils furent rebelles près de la mer rouge. Donc c'est certainement pas avec une telle foi qu'ils ont traversé la mer rouge. Maintenant, regardons Moïse, toujours dans le même passage, puisqu'Hébreux 11, 29 est dans le contexte de Hébreux 11 qui parle de Moïse. Donc, on va regarder l'attitude de Moïse en Exode 14. Et donc là, on regarde les versets 13 et 14. Verset 13, donc c'est la réponse de Moïse à cette panique des Israélites. Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » La foi de Moïse, en comparaison à celle des Israélites, est inébranlable. Il est entre l'armée la plus puissante du monde, de l'époque, avec équipée de 600 chars, d'un côté et la mer Rouge de l'autre, avec lui un peuple de 2 millions de personnes qui sont des gens paniqués, qui sortent à peine de l'esclavage, qui ne sont certainement pas entraînés à la guerre, qui n'ont aucune arme. Et lui, il a confiance. Moïse a confiance. Il a confiance parce qu'il a entendu les paroles de l'Éternel et il a cru. Et il peut se fonder sur une solide promesse de l'Éternel qu'il les amènera à la terre promise. Regardons en Exode 6 le texte de cette promesse, ce que l'Éternel promit à Moïse avant qu'il n'envoie les fléaux sur l'Égypte, en Exode 6. Au verset 5. J'ai entendu, donc c'est l'Éternel qui parle, j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi l'Éternel. Mais voici la réaction des enfants d'Israël. Sans surprise, ils sont aveuglés par l'angoisse. Le verset 9 nous dit « Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. » Donc quand le texte d'Hébreux 11 nous dit que c'est par la foi qu'ils traversèrent, donc au pluriel, ce n'est certainement pas la foi du peuple d'Israël, ce n'est pas la foi des Israélites, mais c'est simplement la foi de Moïse et de quelques autres hommes, certainement, au moins Josué et Caleb, qui sont cités. Peut-être y en a-t-il eu d'autres. Et les traductions de paroles de vie et bonne semence prennent probablement une liberté excessive en utilisant le mot les Israélites comme sujet du verbe traversèrent. Certes, le verbe est au pluriel, mais le pluriel commence avec deux personnes. C'est donc à cause de la foi de quelques-uns qu'ils ont été capables de traverser la mer Rouge. Alors quelqu'un dira, mais oui, mais ça leur a servi de leçon aux Israélites. Et c'est pour ça qu'à la fin de Exode 14, et aussi dans le verset 13 du psaume 106, on voit qu'il, la parole nous dit qu'ils virent la main puissante de l'Éternel, qu'ils crurent en lui et qu'ils craignirent. Peut-être se sont-ils convertis à ce moment-là. Et malheureusement, il n'en est rien, puisque dans le psaume 106, le psaume continue ainsi. Donc verset 12, « Et ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. » Verset 13, « Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. » Et la même épître aux Hébreux au chapitre 3 le confirme. Je lis pour vous à partir du verset 16. « Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après l'avoir entendu, donc après avoir entendu la voix de Dieu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi Aussi voyons-nous qu'il ne put réentrer à cause de leur incrédulité. Dieu fut irrité contre eux pendant 40 ans. Le miracle le plus spectaculaire dont ils furent témoins, le passage de la mer Rouge, ne put rien contre leur cœur endurci. Et dès qu'ils se trouvèrent de l'autre côté, ils se mirent à se plaindre pour de l'eau, pour de la viande, et puis ils se sont fait un veau d'or, et puis ils ont refusé d'envahir Canaan. Alors oui, la parole dit qu'ils ont cru. C'est sûr, quand ils ont vu la main puissante de l'Éternel ouvrir les eaux et les refermer sur les Égyptiens, ils ont cru, mais à la première difficulté venue, ils sont retombés dans l'incrédulité. Quel enseignement pouvons-nous tirer de tout ça? Et c'est très important que nous étudions ces passages, parce que la parole dans 1 Corinthiens 10 et dans Hébreux 3 également nous exhorte de prendre garde à l'attitude des Israélites et les montre comme un exemple à ne pas suivre. Alors cet événement nous enseigne tout particulièrement sur la vraie nature de la foi qui sauve. Et en fait, il y a deux formes de foi. Il y a deux formes de foi qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres passages dans la Bible. Il y a une foi qui ne mène nulle part et il y a une foi qui sauve. Et donc tout d'abord, nous allons regarder une foi qui ne mène nulle part, qui est la foi des Israélites. Je ferai deux remarques sur cette foi. Une première remarque, c'est que c'est une foi qui a besoin de preuves. C'est une foi qui a besoin de preuves. Ils ont vu la mer Rouge ouverte et ils ont cru. Et dans Jean 2, l'évangile de Jean, deuxième chapitre, on a exactement le même modèle. Je lis pour vous. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ils ont cru, soi-disant, mais Jésus ne tient pas compte de cette foi. On a le même phénomène en Jean 6. Ils viennent d'avoir à manger. Jésus a fait la multiplication des pains, ils sont très contents. Et puis à la fin du chapitre, il n'y a plus personne. Parce que dès que Jésus aborde des sujets difficiles, tout le monde s'en va, il n'y a plus que les disciples autour de Jésus. Et d'ailleurs, les Juifs ont été comme ça tout au long du ministère de Jésus. Il a eu beau faire miracle sur miracle, il lui demandait toujours des signes, il lui disait « Quel miracle nous montres-tu ?» Alors que les évangiles en sont remplis. Ils n'ont jamais cru. Et lorsqu'il est crucifié, ils osent lui dire « Maintenant que tu es crucifié, descends de la croix. » Cela nous enseigne, frères et sœurs, une vérité profonde, c'est qu'une vraie foi n'est pas fondée sur des miracles et sur des signes. Certes, Jésus a fait des miracles et ces miracles servaient à authentifier son ministère et aussi, je dirais, à ce que toute bouche soit fermée. Mais il a dit des Juifs, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que le signe de Jonas. Et même celui-là, elle ne l'a pas cru. C'est dans Matthieu 16, verset 4. C'était, rappelez-vous, ce que demandait l'homme riche. Dans la parabole de Lazare et l'homme riche, il demandait à Abraham d'envoyer ses frères, d'envoyer plutôt Lazare à ses frères. Et Abraham lui a répondu, même s'il voyait quelqu'un revenir des morts, il ne croirait pas. Mais ils ont la loi et les prophètes. Ils ont la loi et les prophètes. Écoutez ce que dit, je vais citer deux citations de A.W. Tozer, qui est un prédicateur américain du XXe siècle. Tozer dit ceci sur la foi. Il dit, toute foi qui doit être soutenue par la preuve apportée par nos sens n'est pas une foi réelle. Si notre foi doit s'appuyer sur des preuves tangibles, comme on dit, j'ai entendu, j'ai vu, j'ai senti, ce n'est pas une foi réelle. Ensuite, donc la foi des Israélites, c'est une foi qui a besoin de preuves, et puis c'est une foi, deuxièmement, qui ne dure pas. Dès que le souvenir du miracle s'estompe, la foi s'évanouit. Ils ont assisté au miracle le plus extraordinaire qu'on puisse imaginer à leur époque. Si nous, on avait vu la mer Rouge s'ouvrir, on en parlerait encore, n'est-ce pas? Mais dès Exode 15, 23, juste après, il y a eu Exode 15, il y a le cantique de Marie, je crois, puis ensuite Exode 15, 23, ils se mettent à murmurer pour de l'eau. Et puis en Exode 16, 3, pour de la viande. Et puis en Exode 17, 1, à nouveau pour de l'eau, etc., etc. La parole nous parle d'une telle foi dans la parabole du semeur, en Matthieu 13. Je lis pour vous. « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Nous ne nous y trompons pas, frères et sœurs, une telle foi, elle mène à la mort et à la damnation. Il y a des théologiens évangéliques, il n'y a pas très longtemps, qui ont osé prétendre que si quelqu'un met sa foi en Jésus-Christ, et qu'ensuite il renie complètement cette foi, il est athée, si à un moment dans sa vie, il a cru, alors il est sauvé. Et c'est souvent pour cette raison que, souvent à tort, nous les parents, on a un enfant qui, un jour, quand il était petit, a fait une confession de foi, et puis il grandit, il fait n'importe quoi, et on dit, ah mais il a prié, il a fait une prière. Est-ce que cette prière était authentique ? C'est une grave tromperie. À quelques rares exceptions, les cadavres de tous les Israélites qui ont traversé la mer Rouge sont tombés dans le désert. Et pourtant, ils avaient cru, ils avaient chanté les louanges, ils avaient craint l'Éternel. Mais Hébreux nous dit qu'ils ne purent entrer dans son repos à cause de leur incrédulité. Regardons maintenant la foi de Moïse, et certainement aussi celle de Caleb et de Josué. La foi de Moïse, c'est une foi qui n'est pas fondée sur des preuves, mais qui est fondée sur une promesse. Une foi qui n'est pas fondée sur des preuves, mais une foi qui est fondée sur une promesse. Je vais encore citer Tozer, il décrit ainsi cette foi. La vraie foi s'appuie sur le caractère de Dieu et elle ne demande aucune preuve supplémentaire des perfections morales de celui qui ne peut mentir. Elle s'appuie sur le caractère de Dieu et elle ne demande pas de preuve supplémentaire des perfections morales de celui qui ne peut mentir. Il suffit que Dieu l'ait dit. Il suffit que Dieu l'ait dit. Et si son affirmation contredit chacun des cinq sens et aussi toutes les conclusions de la logique, le croyant continue à croire que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Et c'est la foi de Moïse. Il est entre le marteau et l'enclume. Il est entre la mer Rouge et la plus puissante armée du monde. Et tranquillement, il dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Il tient ferme. C'est la foi d'Abraham aussi. Un vieillard de 85 ans, marié à une femme stérile, à qui Dieu promet une postérité aussi nombreuse que celle des étoiles, que les étoiles du ciel. Et la parole nous dit qu'il ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La foi de Moïse, la foi d'Abraham, c'est une foi qui est fondée uniquement sur une promesse et qui va complètement contre toutes les preuves du contraire. Comment peut-on imaginer, lorsqu'on est entre la mer Rouge et une armée, qu'on va s'en sortir? Comment peut-on imaginer, quand on a 85 ans et que sa femme est stérile, qu'on aura une postérité de sa propre chair? Ils ont fondé leur foi sur la promesse. Ils ont cru avant l'épreuve. Ils ont cru avant l'épreuve. Rappelons-nous l'apôtre Thomas est très certainement, on sait qu'il est un apôtre sauvé puisque Jésus l'a dit. Pourtant, cet homme-là, je dirais, ne reste pas dans l'histoire de façon très brillante parce qu'on parle de la foi de saint Thomas, qui est justement la foi qu'il ne faut pas avoir, c'est-à-dire la foi qui est fondée sur des preuves. Thomas a dit, tant que je ne verrai pas l'épreuve des cicatrices de Jésus, je ne croirai pas. Et Jésus est venu et il lui a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui a dit, oui, mais heureux ceux qui croient sans voir. Ensuite, la foi de Moïse, donc c'est une foi qui est fondée sur les promesses et c'est une foi qui dure jusqu'à la fin. Et on le voit dans Hébreux 11, je lis pour vous Hébreux 11, 13. Il parle de tous ces hommes, en fait, dont on a parlé, Abel, Noé, Moïse, Abraham, etc. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et encore ceci en Hébreux 3, 14. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. La vraie foi, c'est une foi qui dure jusqu'à la fin. La foi des Israélites a été testée et elle n'a pas passé le test. Mais celle de Moïse a passé le test. 1 Pierre nous parle de l'épreuve de votre foi. Il la compare à de l'or qui est éprouvé par le feu. L'or qui est passé au creuset, qui est éprouvé par le feu, dans 1 Pierre. Et frères et sœurs, Dieu permettra que notre foi soit testée. Il permettra que notre foi soit testée. Elle a très certainement été pour tous déjà. Notre foi, par exemple, est testée par les doutes de Satan. Satan vient toujours en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Mais nous savons que Christ a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Christ est plus fort. Satan peut venir avec ses doutes, mais nous avons Christ. Notre foi est testée par l'absence de preuves. Mais justement, la parole nous dit que nous marchons par la foi et pas par la vue. Et nous nous trouverons un jour ou l'autre, au sens figuré probablement, mais d'une façon ou d'une autre, entre la mer Rouge et l'armée de Pharaon, à cause de la maladie, à cause de problèmes au travail, à cause de persécution de la foi, à cause des conséquences de notre péché, à cause d'un enfant rebelle. Et nous risquons d'être saisis par l'angoisse, mais l'angoisse est un péché qui est condamné par Jésus. Et Jésus nous a dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et il a dit encore, on a vu ça ce matin, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il est souverain, il contrôle toutes choses et nous devons nous appuyer là-dessus. Nous doutons peut-être de notre salut, mais la parole nous promet que Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Il a dit aussi que tous ceux que le Père lui donne viendront à lui, qu'il ne rejettera personne qui vienne à lui. La parole nous dit que notre seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Et nous ne voulons pas rebrousser chemin pour retourner en Égypte, c'est-à-dire à une vie de péché. Mais nous voulons croire que Dieu ouvrira la mer Rouge, comme il l'a promis. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et dans la semaine qui vient, et dans toute notre vie, nous voulons miser tout sur Jésus-Christ et sur lui seul. Nous voulons, dans toutes les circonstances difficiles, courir à Christ parce que nous savons qu'il ne rejettera pas parce qu'il l'a promis. Nous courons à lui sans aucune preuve matérielle. Si nous courons à lui les mains vides, en étant prêts à abandonner tout péché, connu ou inconnu, mais en lui confessant sincèrement, il ne rejettera pas. Et nous voulons dans notre vie tout miser sur ses promesses, sur sa personne et sur son œuvre à la croix, et pas sur nos œuvres ou sur notre personne. Prions. Seigneur Tout-Puissant, merci pour la foi que tu nous as donnée et que tu donnes. Et Seigneur, c'est pour ça que nous te demandons de fortifier notre foi, que nous n'ayons pas la honte d'être comme le peuple d'Israël. Mais Seigneur, nous voulons toute chose t'attendre, nous attendre à toi. Nous voulons à l'avance nous attendre à toi, nous attendre à ce que tu vas faire dans nos vies, nous attendre à ces prières que tu vas exaucer, nous attendre à ces personnes que tu vas sauver. Nous voulons nous attendre à toutes ces promesses que tu as faites, Seigneur, avant qu'elles n'arrivent et non pas nous baser sur des preuves. Seigneur, nous sommes les uns et les autres, nous avons souvent été comme les Israélites. Nous devons le confesser. Nous savons que tu es fidèle et juste pour pardonner. Fortifie-nous, Seigneur, donne-nous la foi de Moïse, donne-nous la foi d'Abraham, car c'est de toi qu'elle vient et pas de nous-mêmes. Je te prie, Seigneur, au Saint-Nom de Jésus. Amen.